Les solidarités au-delà des mots. Chaque jeudi de 19 à 20 heures sur RGB, un magazine dédié aux solidarités locales, nationales et internationales. Pour RGB, donner du sens au mot solidarité et pouvoir soutenir l'action de tous ceux et celles qui agissent concrètement au niveau des solidarités est une priorité. Au-delà des mots, il y a les actes. La solidarité est l'affaire de tous, de chacun d'entre nous et d'entre vous. Nous avons l'espoir d'un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. Les solidarités au-delà des mots, c'est chaque semaine, le jeudi de 19 à 20 heures sur RGB 99.2.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce jeudi sur l'antenne de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM ainsi que sur internet à www.radiorgb.net. C'est sans limite, sans frontières et par les temps qui courent, eh bien ça nous fait du grand bien de parler sans frontières, d'autant que le sujet que nous allons fortement évoquer au cours de cette émission lui-même est sans frontières puisqu'il existe à l'échelle planétaire. Il s'agit de la misère, de la pauvreté. Et nous allons évoquer de nombreuses actions qui sont engagées par le mouvement ATD Carmonde, que nous connaissons bien sur RGB, pour être, on va dire, des alliés, des fidèles, des amis du mouvement depuis bien des années, et de veiller à accompagner eh bien toutes les actions qui sont faites par une multitude d'anonymes et que nous souhaitons mettre dans la lumière, tout particulièrement à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère qui aura lieu comme chaque année depuis 30 ans, le 17 octobre, autrement dit la semaine prochaine. Entre-temps, il y a d'autres initiatives dont on va parler au cours de cette émission. Je pense en particulier au bien nommé Le Village des Initiatives qui, lui, est organisé sur la ville de Paris et plus précisément sur une place forte de symboles puisqu'il s'agit de la place de la République les 14 et 15 octobre, c'est ce week-end. Pour tous ceux qui nous écoutent ici en région parisienne et voire des autres régions, eh bien vous êtes conviés à faire le détour sur cette place de la République qui va être extrêmement vivante. Pas d'automobile déjà, bonne nouvelle. Et ensuite, il y aura effectivement un fourmillement d'initiatives. Tout ceci dans le cadre de ce 30e anniversaire, de cette 30e édition Journée mondiale du refus de la misère. Trois invités en studio, Bruno Tardieu, auteur du livre « Quand un peuple parle » que nous avons d'ailleurs rediffusé cette semaine sur l'antenne de RGB, parce que ce qui est dit au cours de cette émission et dans ce livre reste d'une totale actualité. Un combat radical contre la misère, c'était aussi l'occasion de connaître un peu plus l'histoire du mouvement ATD Carmonde et de son fondateur Joseph Wrzinski. Deuxième invité, c'est Michèle Grenot, qui est historienne. Bonsoir.
Bonsoir.
On va parler d'un spectacle auquel vous avez collaboré, participé. D'ailleurs, on entendra au cours de cette émission le metteur en scène de ce même spectacle qui a pour titre « Un peuple, les yeux ouverts ». C'est Philippe Osmalins. On a pris le temps de parler du spectacle, sur le travail de mise en scène, sur le travail de dramaturgie. Et vous avez apporté votre contribution, votre collaboration sur le plan historique. Troisième invité, Michel Besse, volontaire permanence du mouvement international ATD Carmonde pour l'équipe du Val d'Oise et aussi, je crois, sur la région Île-de-France, vous êtes agissant puisque vous avez été aussi très activement dans la préparation du Village des Initiatives qui aura lieu donc le week-end prochain, c'est bien ça?
En effet, José.
Bonjour. On va parler, alors j'ai indiqué que Philippe Osmalin interviendrait au cours de cette émission. Nous avons enregistré une interview il y a de cela 48 heures. Et on entendra également en fin d'émission Sarah Philippe, chargée de communication, pour nous parler du concert qui viendra clôturer cet ensemble d'initiatives et surtout la journée du 17 octobre. Un concert à l'Olympia pour une société autrement. On en parlera avec elle tout à l'heure. Et j'ajoute une autre initiative, elles sont nombreuses, les initiatives à ATD Quart-Monde, les 1001 histoires qui montrent que la misère n'est pas une fatalité. C'est une belle, très belle initiative à l'échelle internationale et votre radio locale a pris sa part dans cette action puisque nous avons réalisé, mis en forme et avec la participation très active de l'association Mots Migrateurs, plusieurs textes que nous avons extrait de ces 1001 histoires qui montrent que la misère n'est pas une fatalité. Il y a des textes en français, des textes en espagnol et des textes en anglais. Aujourd'hui, on va vous en proposer une, peut-être deux, mais une certaine. En plus, elle est bien choisie puisque elle s'intitule « Permis de rêver ». Avec autant de sujets, je pense qu'on aura l'occasion de parler de tout cela. Alors peut-être commençons par le commencement avec Bruno Tardieu, puisqu'il est non seulement auteur du livre que j'évoquais, « Quand un peuple parle », et ce peuple parle, eh bien c'est pas au passé, il continue toujours et encore de parler. Un peuple qui parle de ses conditions, un peuple qui parle de difficultés sociales, et pas seulement, un peuple qui parle de la misère, qui aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, est, qu'on le veuille ou non, un sujet qui reste et qui demeure tabou.
Bonsoir José. Bonsoir. Oui, c'est un sujet tabou et je crois que la grande affaire de cette année, c'est de prendre conscience qu'un peuple est sorti du silence. Les gens qui s'exprimeront, place de la République, les gens qui s'exprimeront sur la place des droits de l'homme le 17 octobre à 18h, où vous êtes tous invités, qui s'exprimeront à New York, au Guatemala, aux Philippines, à Dakar, partout dans le monde. D'ailleurs, vous pourrez suivre avec une web TV toute la journée du 17 sur stoppauvreté.org toutes ces prises de parole à travers le monde. Eh bien, ces gens qui parlent, au fond, ils nous font un énorme cadeau parce que, enfin, quelqu'un comme moi qui n'ai pas grandi dans la pauvreté, je peux entendre vraiment ce que ça veut dire de se voir méprisé par les autres, ce que ça veut dire de se voir ignoré par les autres. Et au fond, ce qui a été ma plus grande surprise en découvrant le mouvement ATD Quart-Monde et Joseph Rezinski, etc., c'est que les gens n'ont pas seulement une souffrance, ils ont aussi une espérance incroyable. Et finalement, quand on les entend, on ne peut plus rester indifférent. J'ai des jeunes stagiaires qui m'aident pour cette campagne que je prépare depuis 2 ans. Et aujourd'hui, une jeune stagiaire du Sénégal qui fait des études supérieures en France disait « Mais j'ai découvert ma propre ville, des quartiers de ma propre ville à Dakar en venant à ATD Quart-Monde alors que j'y vis depuis longtemps. » Tout ça pour dire que quand on a enfin le point de vue, la parole des gens qui sont dans la misère, eh bien on change de conception, on ne peut plus penser que la misère est extérieure à soi. Et quelqu'un qui va prendre la parole au Trocadéro le 17 octobre, il dit, malgré toutes les humiliations, nous avons gardé l'humanité et nous voulons que tout le monde monte en humanité. Donc parfois, quand j'étais jeune, je pensais que les pauvres allaient vouloir simplement me renverser la table. Et c'est vrai que parfois, ils sont en colère. Mais au fond, ils ont surtout envie de collaborer. Ils ont surtout envie que les choses changent. Ils ont envie d'alliance. Et ça, c'est désarmant. On se muscle, on met des murs, on ferme nos portes à double tour, mais l'espérance des pauvres, leur énergie pour poser des actes de résistance et pour poser des actes de paix est complètement désarmante. Et franchement, on est tous un peu découragés. Eh ben, venez rencontrer les gens en situation de pauvreté, vous ne serez plus découragés. Parfois, c'est les plus nantis qui sont découragés et les pauvres, ils n'ont pas le choix. Ils continuent d'espérer dans l'école, ils continuent d'espérer dans la République, ils continuent d'espérer dans la paix et cette espérance, elle est pas pas seulement une espérance éthique, elle est aussi intelligente. Mmh. On devient plus intelligent quand on réfléchit dans tout ce village d'initiatives. Venez réfléchir, venez écouter sur stoppauvreté.org. Quand on réfléchit ensemble avec les pauvres, on a plus de courage et plus d'intelligence.
Mmh. Alors c'est vrai que quand on parle des pauvres, de la pauvreté, de la misère, alors il y a tout un vocabulaire qui s'est étoffé dans notre société pour essayer de rendre plus présentable la pauvreté, la misère aussi, parce que ça nous renvoie à quelque chose qui fait peur à tous et à toutes. On sait que ces 30, 40 dernières années, eh bien, des familles entières ont basculé dans la pauvreté et avec une forme d'escalade, voire de désescalade, parce qu'effectivement, des accidents de la vie pouvant entraîner d'autres accidents qui aboutissent au final eh bien, à tomber dans la misère. C'est une expression que vous avez forcément entendu parler. Bien sûr. On tombe dans la misère aujourd'hui.
Je suis d'accord, José. C'est sûr que là, c'est la grande conscience. Et vous savez, quand j'étais jeune, on a à peu près le même âge, José, la misère était là, mais elle était niée. Mmh. Moi, j'ai grandi dans un milieu très ouvert qui pensait que la misère n'existait plus. Donc aujourd'hui, on ne le nie plus. Mais surtout, il faut prendre conscience que des avancées de droit, par exemple la notion d'exclusion sociale, qui est une notion qu'A. Teddy Carmon a inventé dans les années 70. Ça prouve que c'est pas juste une question de pas avoir de sous dans sa poche, c'est une question d'une relation dysfonctionnelle. Mmh. Cette notion-là nous fait beaucoup avancer. Des choses comme la couverture maladie universelle. C'est en l'an 2000 seulement que les gens défavorisés ont eu droit d'accéder comme tout le monde aux soins de santé. Eh bien, il y a des avancées. Il y a des avancées. Elles sont pas venues toutes seules, elles sont venues par le combat des gens très pauvres. On a réussi à introduire dans la loi de refondation de l'école la notion de coopération entre les enfants. Il y a des avancées et qui sont maintenant inscrites dans la loi comme une méthode pédagogique. Il y a des gens qui font ça depuis très longtemps, mais comprendre que les très pauvres n'attendent que ça, il y a des véritables avancées, il y a des inventions. Partout dans le monde, A.T.D. Carmonde montre qu'il y a des inventions. En France, on a imaginé des territoires zéro chômeur. C'est bien parce qu'on a connu les gens qui sont condamnés au chômage, on se rend compte de toute leur force, de toute leur puissance, de toute leur désespérance, mais aussi de leur aspiration, qu'on peut inventer l'emploi avec eux. Donc voilà, c'est aussi un message d'alerte, en effet, parce que le monde va dans le mur, à mépriser, et non seulement à mépriser et à penser que les pauvres n'ont pas d'intelligence, parce que le problème, c'est que on a pitié des gens pauvres, mais on ne considère pas leur expérience, leur intelligence, leur savoir-être, et c'est ça le retournement qu'apporte Wresinski. Mmh. Arrêter de simplement souffrir pour les pauvres, mais aussi pouvoir être dans une générosité ensemble, c'est-à-dire espérer qu'ils puissent donner le meilleur. Ce dont souffrent le plus les gens pauvres, c'est qu'on leur demande rien. C'est qu'ils ne sont pas en mesure d'apporter leur énergie, leur intelligence. Et c'est ça le retournement qui, malgré tout ce qu'on peut bien dire, est en train d'avoir lieu et donc nous encourage à rejoindre.
Avec Michel Bess, on va parler dans quelques instants du village des initiatives, justement, qui vont ce village mettra parmi ses initiatives ceux et celles qui sont, on va dire, dans l'engagement quotidien pour sortir et donner, participer et contribuer à donner une autre image de la pauvreté, parce que ce n'est pas parce qu'on est en difficulté, parfois durablement, que on n'a pas d'intelligence, qu'on n'a pas une place pleine et entière dans la société, y compris en tant que citoyen. On n'est pas citoyen de deuxième zone ou de troisième zone. On va le voir. Je voudrais juste profiter de la présence parmi nous de Michel Grenot, qui est historienne. Avant même de parler du spectacle, Un peuple, les yeux ouverts, sur ce qu'on vient de dire, sur ce qui vient de se dire, Michel Grenot, est-ce que vous avez forcément le recul nécessaire d'une historienne sur le sujet de la pauvreté dans un pays comme la France? On est quand même parmi les 5 premières économies au monde. Ça veut dire que, normalement, la pauvreté, non seulement devrait être éradiquée aujourd'hui. Votre point de vue sur les évolutions de cette misère, de cette pauvreté dans un pays comme le nôtre?
Oui, effectivement, comme Bruno le disait, on fait partie d'une génération qui a cru pendant les 30 glorieuses que la misère, c'était fini, c'était Zola, c'était le 19e. Et finalement, grâce au Père Joseph qui a su rassembler ces personnes isolées, exclues, on a réalisé qu'il y avait toute une population au bas de l'échelle sociale qui était devenue invisible parce que trop isolée, justement. Donc, le spectacle, justement, montre un pan d'histoire de ce peuple. Et le peuple les yeux ouverts, c'est-à-dire, en fait, un peuple, le peuple du quart-monde, que le Père Joseph a réussi à rassembler et à remettre debout. Et voilà, est-ce que dans l'histoire, il y a toujours eu des pauvres, toujours eu des gens très pauvres? Peut-être qu'à un moment donné, au XIXe siècle, il y a une classe moyenne qui a pu émerger grâce au droit du travail, entre autres, qui a permis notamment aux salariés d'avoir un salaire minimum, etc., et plein une sécurité sociale plus tard. Mmh. Et voilà. Mais il reste une population au bas de l'échelle sociale qui cumule les précarités et qui ne pouvait pas s'en sortir. Et il faut aussi que les lois améliorent son sort.
On a l'impression, effectivement, avec un peu de recul, et sans chercher à comparer les périodes et les époques, que la pauvreté d'aujourd'hui dans les pays occidentaux, et en particulier notre pays, ici la France, eh bien, a produit d'autres formes de pauvreté, d'autres situations. D'ailleurs, on culpabilise de plus en plus les pauvres, les miséreux. On leur dit effectivement assez d'assistanat. Vous l'avez tous entendu tous les jours. On jette effectivement une forme de regard de culpabilité sur ceux et celles qui sont dans cette situation. Comme si, à la fois, ils nous renvoyaient vers quelque chose qu'on redoute tous, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'est réellement à l'abri. Des gens qui étaient dans la société bien installée se retrouvent du jour au lendemain au banc de la société, se retrouvent sans abri, sans toit, et par la suite sans voix et sans droit également. Alors, comment expliquer que dans une société qui a dû tirer des enseignements sur les périodes précédentes, comment on arrive encore à produire ce type de pauvreté, de misère?
Oui, ben, je crois qu'on peut revenir au spectacle et à cette notion de quart-monde forgé par Père Joseph, qui vient en fait d'un petit livret, un petit opuscule que le Père Joseph a trouvé. On lui a remis ce texte de 1789 qui s'appelle « Les cahiers du quatrième ordre du Fourny de Villiers ». Et dans ces cahiers, justement, l'auteur s'indigne du fait que les plus pauvres n'aient pas été reconnus comme des citoyens à part entière, et ils n'ont pas été conviés aux assemblées locales où on allait élire les représentants aux États généraux qui deviendront notre Assemblée nationale. Et dans ce texte, il montre que justement, c'est eux, au contraire, qui auraient le plus de doléances à faire. C'est l'époque des cahiers de doléances. Les plus pauvres à Paris, en tout cas, n'ont pas le droit de participer à ces assemblées où on allait rédiger au niveau local les doléances pour dire quelles sont les aspirations des gens et ce qu'ils veulent qu'ils changent. Et cet homme dit, mais c'est ce qui a interpellé sans doute le Père Joseph, ce sont au contraire eux qui ont le plus de choses à dire, ce sont eux qui le souffrent le plus, et on ne peut pas établir une société sur de nouvelles bases. À cette époque, on voulait régénérer la France, on avait beaucoup d'espérance, et on exclut les plus pauvres parce qu'on dit ils sont pas capables de penser, ils sont pas capables de, ils sont trop dépendants des autres, pas assez instruits, et finalement on divisait la société entre ceux qui travaillent de leurs bras et ceux qui pensent et décident. Mmh. Or le Père Joseph dit non. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a des gens qui se sont indignés, il y a un courant de pensée qui a dit on ne peut pas les exclure des droits politiques, et il ne faut pas un régime censitaire qui exclut ceux qui ne peuvent pas payer d'impôts. Mmh. Tout le monde a le droit de parler, de s'exprimer, chaque voix compte, et c'est ça la démocratie.
Cette journée mondiale du refus de la misère, c'est l'occasion, en tout cas pour le mouvement ATD Quart Monde, mais pas seulement, de dire que oui, et de croire qu'un autre monde est possible. Que la pauvreté, la misère, c'est pas une fatalité. Mmh. Alors que encore autour de nous, on entend souvent dire qu'est-ce que vous voulez ? On a mis tellement de moyens, il y a des allocations, des ressources, des revenus minimums d'activité aujourd'hui, ce qui n'existait pas 30 ans, 40 ans auparavant. Et on a l'impression, malgré toutes ces énergies, toutes ces contributions de la nation, eh bien que la misère ne recule pas.
Mais si je peux me permettre, tout ça a été fait sans les personnes en situation de pauvreté. Et donc le message positif, c'est quand on fait des choses avec elles, quand on pense avec elles, eh bien on gagne des choses beaucoup plus durables, on les gagne pour tous. Donc effectivement, il y a beaucoup qui a été fait, mais ce qui est commun entre 1789, quand vous lisez dans le très bon livre de Michel Grenot ce qui était dit sur les pauvres à l'époque, c'est effectivement, ce ne sont des gens qui pensent pas. Eh bien, à travers le monde, en France et ailleurs, des choses sont décidées, des grands programmes sont décidés, on décide que ces gens-là, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils fassent ça, et au bout du compte, on ne les considère pas comme des partenaires de la lutte contre la pauvreté. Ce qui est nouveau, c'est que des gens très pauvres, avec des mouvements comme ATD Carmonde, Emmaüs et d'autres, se sont réunis et deviennent partenaires eux-mêmes de la lutte contre la pauvreté. Donc vous disiez qu'on aurait pu apprendre. Eh bien, on n'a pas appris. On a fait plein de choses, mais on n'a pas appris. Parce que pour apprendre, il faudra apprendre avec les premiers concernés. On n'a pas appris parce que c'est tout nouveau pour les institutions de réfléchir avec les premiers concernés. Ça, c'est un signe d'espoir.
Oui, en pensant que certains peuvent réfléchir et d'autres pas, c'est ça ?
Ben, c'est-à-dire on considère qu'on pense à la place des autres. Mmh. Vous savez, Joseph Brzezinski disait « Les instruits finissent toujours par penser à la place des autres ». C'est ce qui arriva à Lénine et aux intellectuels autour de lui. Mmh. Il connaissait très bien les jeunesses communistes, il en avait fait partie. Mais penser à la place des pauvres, c'est quand même quelque chose qu'on fait tout le temps. Penser à la place de celui qui souffre en pensant qu'il ne saura pas penser. Donc là, il y a une révolution douce qui se passe et qui appelle à ce qu'on la rejoigne.
Michel Bess, vous êtes volontaire permanent sur Mouvement International d'ATD Carmonde. Pour l'équipe du Val d'Oise et de la région Île-de-France, vous vous êtes fortement mobilisé pour préparer le village des initiatives. C'est le week-end qui arrive, hein, 14-15 octobre, sur la place de la République. Quel beau symbole. Et tout cela à Paris pour valoriser, pour se montrer, partager toutes ces initiatives qui sont positives et qui vont dans le sens de proposer un autre monde. Quand je disais tout à l'heure un autre monde est possible, un monde sans misère, ça paraît une utopie.
Ben oui, vive l'utopie, puisque la statue de la République va nous accueillir hein, sur la place. Elle est grande, elle est belle, c'est la place de la République, c'est Paris. Ben nous, à Cergy, Pontoise, Argenteuil, tous nos quartiers du 95, on aime cette place. Elle est pas dans notre département, mais on l'aime. Et puis quand on voit cette statue, on est impressionné. Et puis, inspiré par cela, il y a cinq personnes qui sont du Val-d'Oise, de Beaumont, de Besançon. Ils ont travaillé des milliers d'heures sur des statues. Mais des statues spéciales. Alors venez les voir sur la place de la République du 14 au 15, samedi et dimanche. Venez les voir. Vous allez voir une statue qui est un jeune homme qui tient son vélo et derrière il a une petite carriole. Dedans il y a de la ferraille, des boîtes de conserve, des trucs qu'il a ramassés dans des chantiers. Il s'appelle Christian. Il a deux copains et ils sont faits comme lui en fil de fer, en papier mâché. Et puis ils ont été peints, ils ont des lunettes, un ballon de basket. C'est des jeunes d'aujourd'hui, c'est des jeunes du Val d'Oise. Et eux, ils sont statufiés. Mais vous pourrez rencontrer Christian. Vous pourrez rencontrer ses deux copains, Francis et Jennifer. Christian, il part tout seul avec son vélo. Le matin, quand il part, comme il dit dans un texte que vous pourrez lire sur la place, il dit « Le vélo, il est léger, hein, je le pousse facile. Mais le soir, quand je reviens des chantiers, avec la ferraille et tout ça, c'est lourd. » Puis quand il mange son sandwich, il est tout seul, il est assis sur une pierre. Et puis ses deux copains, le matin, ils l'ont salué. Alors vous verrez les statues, elles sont sur la place de la République, à côté de la grande statue de la République. Mmh. Vous avez ces petits personnages du courage. Ils ne sont pas petits d'ailleurs, ils sont à hauteur d'homme, à hauteur des yeux. Et puis il y a Christian qui dit, quand je me souviens du salut de mes deux copains le matin quand je pars, je suis dans le chantier tout seul, j'ai trouvé une grille qui était ouverte, j'ai ramassé des ferrailles, fait un peu de chourave des fois, et je pense à eux, et j'ai mal au cœur. Et... il s'assoit et il dit « Je pense qu'il y a encore pas mal de ferraille à ramasser pour que ma famille aille mieux. » Ça, c'est une petite statue que vous verrez sur la place de la République. Alors, voilà une porte d'entrée qui est valdoisienne. Hein. Mmh. C'est ces jeunes qui ont fabriqué ces statues, ces gars de chez nous. Mmh. Et puis, ils ont raconté ça. Puis, vous verrez à côté d'eux, il y a un espace de grande conférence. Ce qu'on appelle à Td Carmont les universités populaires. Ah ben, alors ça, si vous n'avez jamais vu ça, venez à la place de la République, parce que c'est là qu'il y a une université populaire. Elle va être répétée à plusieurs reprises dans toutes les heures, du samedi au dimanche. Ah ben, il y aura des thèmes formidables.
Hein. Alors, avec des intervenants, parce que qui dit conférence, tout de suite, on s'attend forcément à ceux qui ont le savoir, la connaissance. C'est aussi l'expérience de ceux et celles qui vivent au quotidien, qui sont dans le quart-monde, ce qu'on appelle encore le quart-monde.
Ben ouais, José, je savais que je pouvais pas vous avoir en vous disant université populaire, parce que ben les auditeurs aussi de RGB, ils savent bien que université populaire quart-monde, c'est pas des sachants qui parlent à des ignorants. Mmh. C'est tout le monde en sait quelque chose, et quelquefois c'est la galère qui nous l'a appris, quelquefois c'est les livres qui nous l'ont appris, c'est l'amphi. Et il y aura une des universités populaires qui aura lieu sur la place de la République, samedi et dimanche, une qui s'appelle La France, une démocratie, point d'interrogation. Mais cette question, on est tous capables d'y répondre. Il n'y a pas une personne qui sait, une personne qui ne sait pas. Il y en aura une autre, c'est l'orientation des jeunes. Bon, il y en a qui nous écoutent et qui sont étudiants ici à Cergy. Ils ont été orientés vers des universités, vers des facs. T'as choisi, t'as subi, comment t'as fait? On t'a manipulé, on t'a raconté des trucs, qu'est-ce que t'as fait? Mais on est tous capables d'en parler, soit enseignant, soit orientateur, soit étudiant, soit parent. Tous, on a quelque chose à dire sur l'orientation de nos jeunes. Et puis, il y aura des thèmes aussi, comme des jeunes qui sont des quartiers de Montmagny, d'Herblay, qui sont des jeunes qui vivent sur les terrains des gens du voyage, on les salue. Et bien, eux, ils sont montés sur des montagnes de 4000 mètres, dans les Alpes. Et ils vont raconter ça à d'autres. Ça avait l'association 82-4000. Il y a des gars qui sont de Beson, de Soisy, qui sont en université populaire. Ils raconteront comment ils vont au Parlement de l'Union européenne et comment ils défendent des questions qui touchent des concitoyens espagnols et des concitoyens italiens, mais aussi des gens du Val d'Oise. Comment ça se passe avec le RSA? Tu le reçois quand? Il arrive quand? Tu fais ton
des
dossier
très, très concrète.
Ouais, ton dossier, tu le fais, il dure 6 mois. Comment tu fais pendant 6 mois? Et puis, il y en a qui rencontreront aussi des militants de Saint-Gratien, des gens qui sont de Beaumont, une médiathèque à Beaumont qui a décidé de faire sa médiathèque dans les quartiers. Et je les salue parce que c'est des bénévoles qui sont autour d'une animatrice, une salariée de la mairie de Beaumont qui travaille à bloc. Et puis, ici à Cergy, au Nouveau-Saint-Martin, vous connaissez José?
Oui.
Il y a autour de l'espace social, du centre social Laris Maradas, qui a une antenne au Nouveau-Saint-Martin. Beaucoup de gens la connaissent. Ben, il y a plein de vie. Il y a des bénévoles qui se réunissent avec des enfants. Ils ont des livres imaginaires. Vous avez déjà vu des livres imaginaires, chers auditeurs? Si vous n'en avez jamais vu, venez samedi et dimanche. Où ça?
Place de la République.
Et puis, allez, je termine.
Allez.
Vous connaissez à Beson le parc Sacco e Vanzetti?
Oui.
Bon, c'est là qu'il y a eu la première fête de l'UMA. Hein. Faut pas le dire, mais c'était dans le 95. Eh bien, là, il y a des enfants qui se réunissent tous les soirs. Tous les samedis, après-midi, pardon. Et depuis 2 semaines, leurs mamans, les animatrices, toutes celles qui font la bibliothèque de rue, elles sont en train de travailler à bloc. Elles ont réalisé des silhouettes en tissu qui racontent, qui ont été dessinées par les enfants eux-mêmes. Ils se sont couchés par terre, ils se sont mis sur le tissu, ils ont dessiné leur corps, ils ont dessiné leur silhouette et ils l'ont décoré. Parce qu'ils ont dit, ben nous, le samedi et le dimanche, c'est pas sûr qu'on ait le droit d'aller à la République. Puis c'est pas sûr que notre maman qui travaille dans des immeubles, les samedis et dimanches, qui fait des permanences, qui fait des ménages, c'est pas sûr qu'elle puisse nous amener. Donc comme on n'est pas sûr de pouvoir y aller, on envoie quelques-unes de nos copines avec les animatrices et on envoie toutes nos silhouettes. Alors venez à la place de la REP, à Paris, c'est facile à y aller, et vous allez voir le Val d'Oise présent par les personnages du courage faits par des jeunes valdoisiens, les silhouettes des enfants de Beson, les livres imaginaires des enfants de Cergy, et avec tout ça, on pourra dire, ben, le Val d'Oise est présent, Cergy Pontoise est là.
Avec une foultitude, un fourmillement, je disais tout à l'heure, une véritable ruche d'initiatives qui va envahir, qui vont, puisque là, elles sont nombreuses ces initiatives, qui vont envahir la place de la République à Paris ce week-end, les 14 et 15 octobre. Alors tout ça, Tout ça, c'est aussi avec un objectif ou un rappel, parce qu'on est dans une société du partage. C'est pour l'objectif, c'est pour faire société ensemble.
Faire société ensemble, et puis surtout pouvoir dire que bon, c'est un village des initiatives, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et puis, des initiatives, ça dure pas deux jours, hein. C'est pas que à la place de la République. Ben, c'est chez nous. C'est ici, à Cergy, c'est dans tout ce qu'on fait. Et puis ensuite, le mouvement ATD Carmonde est plein d'amis. Ben, vous voyez, par exemple, le lendemain, on sera avec nos amis de l'école pratique du service social, ici à Cergy-Pontoise. On partagera avec des étudiants de première année, qui sont des futurs assistants sociaux, des futurs intervenants en AEMO, en milieu ouvert, des gens qui vont travailler avec des personnes qui ont, justement, comme disait Bruno, comme disait Michel, cette pensée des gens qui, aujourd'hui, ils sont devant des galères, mais ils ont un savoir qui est le leur, un savoir de survie. Eh bien, on va partager avec eux une journée de travail, une journée de séminaire. Puis ça continuera, il y aura des opportunités de rencontre sur Pierrelaye, sur Méry-sur-Oise. On invite tous ceux qui nous écoutent et puis qui ont envie d'en savoir plus, de pouvoir continuer après le 14 et le 15 à la place de la République et de continuer à faire quelque chose et puis de se retrouver ensemble.
Place de la République, c'est des horaires de 10h à 19h pour ce village des initiatives qui pourra accueillir eh bien tous ceux et celles qui nous écoutent et bien plus encore. Parlez-en autour de vous. De 10h à donc 19h, c'est ça, le village des initiatives, samedi 14, dimanche 15 octobre à Paris, place de la République. Quel beau symbole quand même cette place, parce que elle est le lieu de manifestations diverses et variées, mais peut-être que je me retourne là encore vers Michel Grenot, pour ceux et celles qui n'ont pas encore saisi l'importance de ces lieux. Quand on parle de symboles, c'est vrai qu'il y a à la fois des personnalités, des personnages de l'histoire, mais aussi des lieux qui sont forts de symboles. Le fait que ATD Carmonde investisse cette place, quel est le symbole pour vous ?
Oui,
on regarde l'histoire.
C'est sûr, c'est la République, c'est la République de tous. Et donc, que les plus pauvres soient présents sur cette place, ça montre bien qu'ils font partie. La République ne tient pas sans eux. Mmh. Et avec eux, surtout, et qu'ils soient debout. Et voilà. Et
bon, pendant que je vous ai, peut-être Bruno Tardieu veut rajouter.
Oui, je voulais rappeler qu'il y a un autre lieu symbolique qui tient beaucoup à cœur à nous tous, c'est le Parvis des Droits de l'Homme.
Le Trocadéro.
Donc il y a un autre rendez-vous au Parvis des Droits de l'Homme à 18h le 17 octobre. Et on sera en direct avec des lieux dans le monde, avec l'ONU, avec. Et je pense que c'est important de rappeler cette avancée, d'avoir considéré que la misère n'est pas seulement une question de pécuniaire. Bien sûr, c'est un manque de moyens, mais plus radicalement, c'est tous les droits de l'homme qui sont violés. Donc c'est notre République et c'est tous nos droits à tous qui sont mis à mal quand on accepte que certains n'y aient pas du tout accès. Donc le Parvis des Droits de l'Homme, pour lancer un grand appel à l'action que vous pouvez signer sur stoppauvreté.org, appel à l'action, on est des milliers déjà à l'avoir signé, appel à l'action pour que tout le monde se dise, moi aussi je peux prendre des initiatives, je peux rejoindre ce mouvement.
Parmi les autres initiatives à l'occasion de cette 30e édition de cette journée mondiale du refus de la misère, des 60 ans aussi de lutte contre la misère et la pauvreté, mouvement qui a été créé en 1957, c'est bien ça ?
C'est ça.
1957. Vous savez, en préparant cette émission, je me suis fait une observation, et c'est pas pour rien peut-être que j'ai ce lien tout particulier avec votre mouvement d'ATD Carmonde depuis bien des années. J'ai 60 ans aujourd'hui même et 30 ans d'engagement sur cette radio locale associative.
Bon anniversaire, José.
Vous voyez un peu ?
C'est merveilleux.
Il y a des chiffres comme ça qui sont des croisées de chemin. Et finalement, dans l'engagement associatif, on sait de quoi on parle les uns et les autres.
Oui, parce que vous avez lutté pour la parole, justement, pour la liberté de parole. Et en fait, ce que j'ai découvert avec ATD Carmonde, c'est que les très pauvres n'ont pas liberté de parole. Ils sont toujours obligés de dire merci. Joseph Rezinski disait, mais on est obligé de dire merci à la dame qui amène des vieilles chaussures pourries. Et il disait à sa mère, mais pourquoi tu lui dis merci ? Il dit, mais tu sais, ces gens-là, si on ne leur dit pas merci, après, ils voudront plus les aider, on aura peut-être besoin d'eux. Donc en fait, les gens en situation de misère, dans toute l'histoire, depuis des millénaires, n'ont pas cette liberté de parole. Et ce qu'on célèbre là, avec 60 ans de combat, c'est un début de liberté de parole des gens très pauvres. Et ça, c'est important de venir l'entendre et de venir le rejoindre.
Parmi les initiatives auxquelles on vous invite et on vous convie, vous qui nous écoutez dans le poste de radio, voire sur votre ordinateur ou sur un tout autre moyen de communication moderne, smartphone et autres tablettes, il y a un spectacle dont il va être question avec le metteur en scène Philippe Osmalin, dramaturge et metteur en scène. Spectacle qui a été fait en collaboration historique avec l'une de nos invités, Michel Grenot, mais on retrouve d'abord Philippe Osmalin. On parle tranquillement de ce travail qui permet la 3 représentations, les 13, 14 et 15 octobre à la Maison des pratiques artistiques et amateurs sur Paris, sur l'espace Saint-Germain, 4 rue Félibien, dans le 6e arrondissement de Paris. On le retrouve et on en reparle tranquillement ici en studio ensuite.
Les solidarités au-delà des mots sur RGB 99.2.
Philippe Osmalin, on va commencer cette interview. Vous êtes en charge de la mise en scène et de la dramaturgie d'un spectacle qui a pour titre « Un peuple les yeux ouverts ». Un beau challenge qui va se réunir pas moins de 50 comédiens sur scène, c'est ça ?
Tout à fait, et qui viennent de différentes régions.
Avant de développer le sujet autour des participants, de ceux que l'on va retrouver sur scène, peut-être en venir d'abord sur le spectacle à proprement parler, Un peuple les yeux ouverts, qui a pour particularité de proposer une dramaturgie fondée sur l'histoire, mais l'histoire de notre pays, l'histoire de France ?
Oui, dans ces cas-là, on aurait dû dire une histoire avec un grand H.
Oui.
À la fois sans non plus présomption, n'est-ce pas ? Mais tout simplement parce que on part de la Révolution française. Et d'un pan de l'histoire de la Révolution qui est peu connu, qui est celui de l'histoire de l'exclusion et des pauvres. Car les pauvres, en fait, au moment de la Révolution, n'ont pas vraiment été écoutés. C'est un certain Dufourny, un révolutionnaire, effectivement, qui n'est pas resté dans les chroniques historiques, sans doute parce qu'il touchait à un sujet brûlant, en fait, hein, un sujet profond, qui est celui de l'exclusion. Et donc, à travers ce personnage de Dufourny, ce révolutionnaire, on a essayé, justement, de mettre en place ce combat qu'il a mené auprès, déjà, des plus pauvres.
Oui.
Donc ça, c'est l'aspect, effectivement, dont on pourrait dire qu'il est vraiment historique. Mais l'intérêt, en fait, et de ce qu'on a essayé de faire au niveau, effectivement, du spectacle, et j'ai envie de dire du message qu'on veut faire passer, c'est comment, de la Révolution jusqu'à maintenant, il y a, en fait, un combat qui n'a cessé d'être mené et qui, évidemment, a pris forme avec celui de Joseph Brzezinski et de l'association du mouvement international ATD Quart-Monde.
On y retrouve aussi des grandes voix comme celle de Victor Hugo, je crois.
Oui, à un moment donné, j'ai envie de dire qu'il fait presque une forme de transition, si vous voulez, entre cette révolution qui s'achève quand même sur l'exclusion des plus pauvres, ce que Dufourny appelle même le mépris des plus pauvres, pour se rendre compte qu'effectivement, en 1849, il y a un siècle, quasiment, non, pardon, 50 ans après la fin de la, globalement, hein, de la révolution, Victor Hugo va nous dire la même chose, vous n'avez rien fait. Voilà. Donc j'ai trouvé ce moment extrêmement fort, qui est un long discours, dont on a pris justement de courts extraits, hein, qu'il a clamé, même on peut dire, à la tribune de l'Assemblée nationale. Et on se rend compte qu'après, en 1849, là, on fait le grand saut, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas non plus d'une phrase historique exhaustive, hein, on se donnait un temps limité, et puis voilà, je travaillais avec un certain nombre de comédiens qui ne me permettaient pas non plus de faire une grande fresque, c'était absolument pas l'objectif de notre travail là, et de cette mission. Un siècle après, donc je disais 1849, et ce discours passionnant et passionné de Victor Hugo, on se retrouve en 1957, et là c'est Joseph Brzezinski découvrant les bidonvilles, et notamment le camp, tout particulièrement, de Noisy-le-Grand, d'où va partir en fait sa mission, et son association, et son combat jusqu'à nos jours. Hein,
ça, tout un peuple les yeux ouverts, pour reprendre le titre de ce spectacle, est-ce à dire que la parole ou les paroles du peuple, on les retrouve également dans ce spectacle ?
Absolument, absolument. Vous avez parlé tout à l'heure du challenge, et quelque part c'était ça aussi. C'est pas de faire entendre seulement les révolutionnaires, je dirais, qui ont évidemment une réflexion, on pourrait dire maintenant intellectuelle, même si on n'existait pas évidemment de la révolution. C'est aussi justement les gens qui sont là, qui veulent se faire entendre, mais qui savent pas toujours hein, comment le faire. Bien entendu, quand on n'a pas encore cette conscience, surtout une conscience sociopolitique qui n'existe pas du tout de cette manière-là sous la révolution. Donc on fait entendre, en tout cas, le peuple. Et puis, bien entendu, on le retrouve là, par contre, directement au XXe siècle, avec ATD Quart-Monde, c'est-à-dire le peuple. Quart-Monde, le peuple qui de lui-même hein, travaille sur cette manière de combattre la misère, d'éradiquer la misère par eux-mêmes, à travers évidemment ce mouvement qui les accompagne, les soutient et les mène le plus loin possible. Mais ce qui est important aussi de bien justement entendre dans ce que vous me demandez là par rapport à la question effectivement du peuple, c'est les faire entendre et toutes ces paroles qu'on a essayé donc de transcrire théâtralement viennent d'archives de la Révolution française, qui ont été apportées par justement une historienne, hein, Michel Grenot, des archives d'Athée Carmonde. Moi j'ai dû beaucoup lire en fait hein, pour entrer dans toute cette histoire avec le grand âge qu'on disait tout à l'heure, mais c'est aussi la petite histoire, hein, c'est les histoires de ces gens, c'est pas seulement l'histoire historique qu'on découvre dans les livres. Voilà, et donc ces paroles là elles sont toutes authentiques, même si elles ont été retranscrites, retravaillées pour être théâtrales, et donc quelque part bien entendu on en a fait une chair de scène hein, au sens du terme, et elles viennent de loin, elles viennent des gens, elles viennent de l'histoire.
Le fil rouge de tout ça, c'est effectivement ce message qui sera effectivement bien présent, bien prégnant dans le spectacle, l'occasion de dire non à l'exclusion, et tout particulièrement à l'occasion de cette journée mondiale du refus de la misère. Collaboration historique, parce que, oui, pas une reconstitution historique, mais des faits historiques qui ont marqué notre histoire à nous tous.
Oui,
donc
absolument.
La collaboration historique de Michel Grenot.
Tout à fait, c'est aussi pour ça que je la citais. D'abord, elle m'a accompagné dans ce travail d'archives, de trouver justement les textes pertinents, puisqu'elle-même est spécialiste hein, en tant qu'historienne de ce révolutionnaire du Fourni. Hein, j'ai envie de dire qu'elle l'a vraiment mis au jour. Et c'est donc une belle aventure historique par rapport à ça. Nous, maintenant, il s'agissait d'en faire une aventure théâtrale et de s'approprier, si vous voulez, la matière historique pour en faire une matière théâtrale, j'ai envie de dire créative à certains égards, pour qu'elle nous parle aussi par l'impact de la parole, l'impact de l'image, l'impact des gestes, tout ce qui fait qu'il y a théâtre sur une scène.
Je parlais de challenge, je pense pouvoir dire même de défi, parce que ce projet va être réalisé avec à la fois la participation de groupes très différents, qui sont même de régions différentes, que vous allez réunir à l'occasion de ce spectacle, entre de jeunes amateurs, voire même des enfants, je crois savoir,
absolument,
des adultes, et aussi de jeunes comédiens professionnels, une véritable mixité sociale et culturelle, y compris parmi ceux et celles qui vivent dans le mouvement d'Athée des Carmondes, c'est ça ?
Exactement, exactement, vous avez tout dit. C'est exactement cette mixité-là à laquelle je tenais, à laquelle tenait le mouvement ATD. En fait, au départ, donc, la commande qui m'était faite, c'était celle, évidemment, de faire travailler des jeunes, hein, des jeunes militants, de faire travailler des militants de régions différentes, voilà, d'arriver, justement, vous voyez, par le théâtre à créer un lien. Et puis, je me suis dit qu'il fallait aussi une colonne vertébrale, quand même, pour le théâtre. C'est à ce titre qu'il m'est apparu important de faire venir des jeunes comédiens issus d'écoles professionnelles, hein, qui sont donc vraiment de jeunes comédiens, mais qui ont évidemment tout ce parcours théâtral qui leur permet, voilà, d'assurer, notamment sur des textes forts comme ceux de la Révolution, qui sont pas des textes évidents. Et puis, à partir de cette colonne vertébrale, eh bien, on a toute la densité du corps, hein, théâtral, avec ces gens de régions différentes, et ça, c'est extrêmement, extrêmement beau, même extrêmement émouvant. Et j'ai des enfants de Villiers-le-Bel, effectivement, que j'ai fait venir parce que l'année dernière, bon, j'ai travaillé sur un grand projet avec 95 enfants dans différentes écoles de Villiers-le-Bel. C'est une ville avec laquelle je travaille depuis maintenant 8-9 ans. Et il s'y passe des choses extrêmement fortes. Et c'est aussi un moyen de dire, voyez, là-bas, dans cette banlieue, et il n'y a pas que les voitures qui brûlent, il y a aussi les enfants qui jouent, qui ont beaucoup de bonheur à jouer, les familles qui les accompagnent. Et là, c'est très beau de voir comment les familles, vous voyez, se donnent énormément pour que, venant de Villiers-le-Bel, ils arrivent à coordonner leurs efforts pour faire venir leurs enfants. C'est extrêmement chouette de voir toute cette aventure. Et puis, donc, les militants qui viennent de la région de Saint-Étienne, de la région de Franche-Comté. Voilà, donc, si vous voulez, il y a une logistique. Alors, pour le coup, assez impressionnante. Et là, on a été extrêmement soutenu par toute la dynamique jeunesse d'Athée des Carmondes, qui ont fait un très très beau travail. Jennifer, Célia, Karine, Anne-Laure ont participé d'une manière magnifique pour que ce projet ait lieu, et aussi en tant que comédienne, parce qu'elles ont toutes joué. Et ça, c'est une belle aventure, vous voyez, où tout s'est mélangé, parce qu'il y a aussi des volontaires permanents, les volontaires permanents d'ATD, hein, qui sont ceux qui sont là, le fer de lance hein, du combat, et ils sont là aussi dans le spectacle. Donc vraiment, il y a tout, si je puis dire, hein, au niveau de ce que représente ATD Carmonde, et j'ai envie de dire une société en mouvement.
Un peuple les yeux ouverts, on peut le qualifier de spectacle engagé.
C'est sûr, pleinement.
Trois représentations donc à découvrir en ce mois d'octobre, les 13, 14 et 15 octobre. Ça sera se présenter à Paris, donc à la maison...
Oui, en fait, c'est à l'Auditorium Saint-Germain, maison des pratiques artistiques amateurs.
Voilà.
Qui est en fait un très beau lieu au marché Saint-Germain, en plein Odéon, Saint-Germain-des-Prés. Oui, un magnifique quartier. Et
Paris
quelque
6e.
Part symbolique aussi de la Révolution française. C'est là qu'il y a le Procope, c'est là qu'il s'est passé plein de choses. C'est là aussi qu'il y a eu 68 et on fait des allusions à 68. Donc un magnifique quartier, vous voyez, par rapport aussi à la symbolique du spectacle.
Et sur scène, comment ça va se produire? C'est juste un travail d'acteur? Vous y associez d'autres techniques artistiques?
Effectivement, c'est un spectacle qui est extrêmement... extrêmement engagé, on l'est tout à l'heure, mais aussi sur le travail des personnes, donc sur le travail d'acteur, absolument. Après, voilà, il y a aussi, en termes de mise en scène, je travaille aussi sur des images, j'ai aussi cassé ce qu'on appelle le quatrième mur, et là, je ne vais pas en dire trop non plus, parce que voilà, il y a la surprise hein, de ce qu'est aussi une représentation théâtrale, donc il ne faut jamais trop dire, mais il y a en tout cas, de ma part, si vous voulez, un désir d'ouvrir l'espace scénique, voilà, d'ouvrir le spectacle, d'ouvrir le théâtre, d'ouvrir la salle dans ce que cela veut dire. Donc la mise en scène, en fait, elle se déploie dans, je dirais, tout l'espace théâtral.
Conservant un peu de mystère, effectivement, c'est de suspense, juste la durée du spectacle, tout de même.
C'est 1h45.
Un grand merci à vous, Philippe Osmalens. Merci.
Merci beaucoup, José. Merci.
C'est donc à l'Espace Saint-Germain, à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, aux 4 rue Félibiens, Paris 6e, entrée libre, autrement dit c'est gratuit, sur réservation cependant, un téléphone pour le faire au 01 85 53 02 10, 01 85 53 02 10, pour ce spectacle qui a pour titre Un peuple, les yeux ouverts, avec la mise en scène signée, c'est plus que signé par Philippe Osmalin, qui était notre intervenant à l'instant, avec le concours historique d'une de nos invités, Michel Grenot. Peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit, peut-être pour compléter le propos de Philippe Osmalin sur ce travail précieux, puisque effectivement il fallait s'appuyer sur des faits historiques, sur l'histoire, avec un grand H, comme il disait tout à l'heure.
Non, je vais juste rajouter que c'était magnifique de voir ce travail évoluer, évoluer au fil des mois, en peu de temps finalement, de voir l'enthousiasme et le travail qui a été fait derrière, parce qu'il faut durer quand même quand on fait un spectacle comme ça. Il faut apprendre, il faut durer, il faut... voilà, et donc c'est un sacré challenge, un sacré défi dans une très bonne ambiance en tout cas.
Bruno Tardieu.
Et je me permets d'ajouter que pour des jeunes à qui on dit mais... ta vie n'a aucun sens, t'es pas tellement dans le livre d'histoire.
T'es rien.
De découvrir qu'il y a déjà des gens il y a 200 ans qui ont dit que les pauvres étaient pris un peu pour des idiots, que leur avis comptait pas, c'est une libération. La déléguée générale adjointe du mouvement, Martine Lecor, dit quand elle a entendu Joseph Rezinski, elle a elle-même grandi dans la misère, elle dit mais il disait des mots que je rêvais de pouvoir dire, mais que j'osais pas dire. Et là, ces jeunes, moi je connais certains de ces jeunes qui vivent vraiment la galère, hein, vraiment la misère, de pouvoir découvrir cette histoire, c'est une libération pour eux. Donc c'est fun de faire du théâtre, mais c'est beaucoup plus, c'est le propos, qui enfin, ils peuvent se retrouver dans quelque chose qui est leur histoire.
Bruno, pendant que vous avez la parole et le micro, on va parler d'une autre initiative qui est en lien avec tout ce qui vient d'être dit et qui va continuer de vivre d'ailleurs sur le site internet de stoppauvreté.org. C'est les 1001 histoires qui montrent que la misère n'est pas une fatalité. Quelques mots sur cette initiative ?
Bah écoutez, c'est vraiment notre joie de découvrir que quand on a lancé ça... énormément de gens s'y sont mis. On a reçu des histoires spontanées de gens qui ont lutté et qui avaient envie de dire, de raconter ces luttes. Les choses ne viennent pas toutes seules, mais les choses sont possibles. Elles sont possibles si on reste pas seul. Et c'est des histoires qui sont parfois des choses à l'échelle d'un quartier. Parfois, c'est des choses à l'échelle du monde. Comment l'UNICEF a changé son fusil d'épaule en se rendant compte qu'elle n'atteignait pas les enfants les plus pauvres. Donc, c'est des histoires de changement à la fois à l'échelle d'un quartier, mais de grands changements politiques. Les changements politiques sont possibles et on a essayé de les raconter très simplement en une page. Et c'est sur un site aussi qui s'appelle Medium. Donc, il y a beaucoup de gens qui regardent et donc on appelle aussi les auditeurs à venir raconter leurs histoires qui montrent que les choses sont possibles.
www.stoppauvreté.org. Parmi ces 1001 histoires qui montrent que la misère n'est pas une fatalité, on vous partage, on vous propose d'en écouter une, d'en découvrir l'une d'entre elles. 1001 histoires qui montrent que la misère n'est pas une fatalité. Dans les 1001 nuits, Scheherazade raconte des histoires jour après jour pour ne pas être tuée. Ici, il s'agit de vraies histoires. Elles racontent comment des personnes ont retrouvé espoir grâce à la fraternité et à la solidarité de leur père. 1001 histoires d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou de là-bas. Récits de changement, de liens qui se recréent, récits de reconquête de droits ou de combats pour gagner une loi, récits apportant des idées pour agir demain ensemble contre l'exclusion et pour créer la paix. Écoutons l'une d'entre elles.
Permis de rêver. Les beautés de la petite cité. La cité du château de France va être démolie. Désormais, lorsque les habitants partent, les baies sont murées. Kaléidoscope de parpaings gris, mal jointoyés, roses surréalistes, portes blindées, marron ou grises. J'habite la cité depuis 2 ans. J'ai choisi ces lieux qui doivent disparaître depuis plus de 15 ans pour vivre et peindre. J'étais certaine de pouvoir témoigner des injustices subies, des courages de lutte et de vie des habitants, un acte politique. Un soir, elle a sonné, et du haut de leurs 3 ans et demi, les yeux noirs et rieurs ont demandé à peindre. Le chemin était ouvert. Je n'ai plus eu le temps de la recherche picturale. J'anime des ateliers dehors, dedans, le soir, le matin, selon les coups de sonnette des enfants, de mes disponibilités, de leurs désirs, de mes forces. Un papa s'est mis à dessiner. Il a installé un atelier dans le Cagibi attenant à son pavillon. Une exposition de ses travaux a été organisée. Avec les enfants ou les adultes, nous colorons les parpaings et les murs. Une maman m'a demandé de l'aide pour décorer son appartement de frises de fleurs et de roses. Une autre de toile représentant des scènes festives. Plusieurs parents commandent le portrait de leurs enfants. J'assiste à des anniversaires, des fêtes, des concerts et rythmes improvisés de grande qualité. L'exposition « Les beautés de la petite cité » n'illustre donc pas les injustices, les violences et autres réalités difficiles toujours vécues, parfois de façon dramatique, par les habitants de la cité du Château de France. Elle est un hymne à la joie, à l'aspiration, à la générosité, à la créativité. Elle témoigne que l'émerveillement est une base solide pour tout changement. Et c'est alors que presque tous les habitants sont déjà partis que fin 2013, je trouve un titre fédérateur au projet « Permis de rêver ».
Pour découvrir les autres histoires recueillies par le mouvement ATD Quart-Monde, consultez le site www.stoppauvreté.org. www.stoppauvreté.org. Voici donc l'une de ces 1001 histoires, ce qui sont effectivement à pouvoir consulter sur le site stoppauvreté.org. 6 d'entre elles ont été enregistrées dans les conditions de celles que vous venez d'entendre il y a un instant, et nous espérons d'ici 24 heures pouvoir en rajouter 2 ou 3. Et sur l'antenne de RGB, effectivement, nous allons diffuser ces histoires qui ont été mises en forme par votre radio locale RGB au niveau de la réalisation, avec le concours d'ATD Quart-Monde international, mais également et surtout aussi avec le concours de l'association Mots Migrateurs, qui est une association bien connue sur cette antenne de radio locale, puisqu'elle produit une émission mensuelle qui porte d'ailleurs le même nom, Mots Migrateurs, question de littérature, avec des auteurs, avec des ateliers d'écriture et des lecteurs, comme on a pu en découvrir l'un d'entre eux à cette occasion. Allez, on arrive presque au terme de cette émission. Je vais me faire pardonner sans plus tarder auprès de Sarah Philippe, parce qu'on n'aura pas le temps d'écouter le son qu'on a fait avec elle, mais on aura l'occasion de l'entendre sur notre antenne de radio locale avant le 17 octobre, car il s'agit du concert qui est aussi une autre initiative à l'occasion de cette journée mondiale du refus de la misère qui aura lieu partout dans le monde, puisque c'est une journée mondiale, le 17 octobre, c'est-à-dire mardi prochain. Alors, juste revenir, parce que là, on va se refaire un peu une synthèse de tout ce qui a été dit. Il y a le village des initiatives, Michel Besse, 9 thématiques, Vous nous avez déjà donné, c'est avec beaucoup d'enthousiasme, l'envie de nous rendre et de partager ces moments forcément de convivialité et de fête aussi sur place.
Ah oui, c'est la fête. Et puis à 12h, à 18h, il y aura du chant. Il y aura même des gens du Val d'Oise qui seront dans une grande chorale éphémère qui va exister, de plus de 80 chanteurs. Ben, venez chanter avec eux. Pourquoi ? Parce que ben, sur la place de la République, la conviction qu'on a, c'est que tous les talents peuvent combattre toutes les misères. Mmh. C'est-à-dire que tu sais chanter, tu chantes comme une casserole comme moi dans ta douche, ou bien tu chantes dans une chorale drôlement bonne, ben, on a tous le même goût pour l'harmonie. Et puis, tu sais monter un mur d'escalade, tu sais amener des enfants vers là-bas. Et puis, tu peux pas venir à la place de la République ce week-end, le 14 et le 15, mais tu peux continuer de rencontrer ce mouvement de Stop Pauvreté sur le site www.stoppauvreté.org. Tu peux continuer à t'engager. Il y aura 9 thématiques sur la place.
Emploi et travail, habitat et logement, culture et création, solidarité internationale, santé, jeunesse, famille, petite enfance, éducation et participation pour tous ou de tous.
Pourquoi ? Parce que, en fait, toutes les situations dans notre vie, elles sont des occasions de combattre cette exclusion. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas là. Il y a toujours quelqu'un qui est dans la classe, il est au fond, il n'a pas suivi le cours de maths, il est à la ramasse, et puis quand il sort de là, eh ben, à la fin du trimestre, il est derrière tout le monde. Eh ben, quand devant l'école, quand devant des copains qui perdent pied, eh ben, qu'on soit petit, qu'on soit grand, on a tous une possibilité d'agir contre cette exclusion. Mais c'est ça qu'on veut dire sur la place de la République ce week-end, les 14 et 15. C'est qu'on a tous des idées et elles sont dans tous les domaines. Pourquoi ? Parce que la pauvreté, elle touche les droits de l'homme. Et tous les droits de l'homme, ils sont reliés les uns aux autres comme des petits bonhommes qui se tiennent la main. Le droit au logement, le droit à l'identité, le droit au travail, le droit à exister, le droit au jeu, au loisir. Il y a tellement de gens ici à Cergy, tellement de gens à Pontoise qui travaillent, qui se démènent les samedis et les dimanches pour que des enfants puissent taper dans un ballon. Mais taper dans un ballon, c'est aussi donner une occasion de combattre la misère. Venez le samedi, venez le dimanche, vous pouvez pas, eh bien on se retrouve quand même et on en reparle.
Merci. Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Des paroles fortes qui ont été gravées sur la dalle du Trocadéro. Elles ont été prononcées le 17 octobre 1987 par le fondateur d'ATD Quart-Monde, Joseph Wrzesinski, qui est décédé l'année suivante, c'est bien ça. Et ce message, gravé sur la dalle, eh bien, quelques années plus tard. Et ce rendez-vous qui aura lieu donc le 17 octobre, mardi prochain, Bruno Tardieu. À 18h, le rassemblement.
Et là, il y aura un conte un peu merveilleux où cette fameuse pierre gravée, qui a été gravée le 17 octobre 87, et ça a été reconnu après par l'ONU en 92, mais cette fameuse pierre gravée va parler. Elle va dire tout ce qu'elle a entendu depuis 30 ans. Ce sera un conte fantastique qui va nous emmener à travers toutes ces résistances, toutes ces luttes, avec les jeunes, avec les enfants, avec ce droit aussi qui fait tellement, tellement... souffrir les gens, c'est le droit de vivre en famille. On pense souvent à travers le monde que les enfants seraient quand même mieux ailleurs que dans ces conditions-là, et on pense faire le bien et on fait beaucoup de tort parce que les enfants du coup ne peuvent pas accéder à leurs racines et à leur histoire. ATD Quart-Monde et Michel Grenot qui est à mes côtés a été une des militantes de ça. ATD Quart-Monde croit qu'il faut restituer l'histoire des très pauvres et que les très pauvres comme nous tous ont besoin d'une histoire. Si ça pouvait être une histoire commune, on aurait plus d'espérance.
Rassemblement qui aura lieu donc sur le parvis du Trocadéro à Paris, mardi prochain, mardi 17 octobre, à l'occasion de ce 30e anniversaire de la Journée mondiale du refus de la misère, de 18h à 19h15.
Et le soir, un grand concert à l'Olympia. Donc là, il reste des places. Venez, venez, parce qu'on a besoin de fêter, de danser, de chanter. On a fait un très beau chant à travers le monde dont on a entendu quelques notes.
Il y a de nombreux artistes, Laurent Voulzy. J'ai vu aussi que Alain Souchon s'invite à cette occasion.
Kerry James.
Voilà, ce Christophe Willem, ce Alan Stivell, ce Mélis Mel, que nous connaissons bien sur RGB, Dan Akil, et d'autres artistes qui ont confirmé leur participation.
Et Abdelmah. Malik qui lira un texte.
Et Abdelmalik.
Abdelmalik lira une des mille et une histoires.
Absolument. Je crois qu'on a tout dit, si ce n'est que je voudrais pour conclure rappeler deux sites internet, stoppauvreté.org, stoppauvreté tout attaché en
avec
un seul
deux
mot.
P, c'est encore
avec,
plus fort.
Et oui, 2P et pas d'accent s'il vous plaît, .org et ATD Carmonde, ATD-Carmonde tout attaché.fr, voire un troisième site, le www.refuserlamisère.org.
José, bon anniversaire.
Merci.
Bon anniversaire, José. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous tous qui avez participé à cette émission. Merci Bruno Tardieu, merci Michel Grenot, merci Michel Besse ici en studio. On remercie les autres invités et rappeler que cette émission sera rediffusée sur RGB demain midi de 12 à 13 heures, puis disponible en podcast sur le site internet de la radio au www.radiorgb.net. Je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas, le 17 octobre, c'est bientôt, c'est partout dans le monde, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Bonsoir à tous.
Les solidarités au-delà des mots. Chaque jeudi de 19 à 20 heures sur RGB, un magazine dédié aux solidarités locales, nationales et internationales. Pour RGB, donner du sens au mot solidarité et pouvoir soutenir l'action de tous ceux et celles qui agissent concrètement au niveau des solidarités est une priorité. Au-delà des mots, il y a les actes. La solidarité est l'affaire de tous, de chacun d'entre nous et d'entre vous. Nous avons l'espoir d'un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. Les solidarités au-delà des mots, c'est chaque semaine, le jeudi de 19 à 20 heures sur RGB 99.2.